Méta Radio sur le 101.1 de la bande FM. Méta Radio, mettez votre radio car c'est l'heure de Méta Radio. Yes, bonjour à vous mes amis.
Bonjour. Bonsoir. À toi DJ Jim, bonsoir Alain qui est avec nous ce soir. Ce soir du coup c'est la dernière.
C'est une dernière et une première je crois.
C'est une dernière et une première, c'est un début et une fin.
Écoutez, les auditeuristes, on a plein de surprises et moi-même, je pense que je vais apprendre beaucoup, beaucoup de nouvelles ce soir. Didjihad, c'est un plaisir de te retrouver derrière ce micro des studios de Radio U.
Merci, merci à toi, c'est un plaisir, DJ Jim aussi. Alors ce soir, du coup ce soir c'est un peu particulier. On est le mardi 17 septembre 2024, hein, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas.
17 septembre 2024, il est 19h.
L'année dernière, avec toi, DJ Jim, on avait commencé une émission, Méta Radio, Méta Radio. On a fait quelques numéros.
Oui.
Et puis c'est fini, parce que tu pars à Cuba, c'est ça. Embauché par PCC.
Je pars à Cuba, je pars moins loin que cela, mais je pars pour de nouvelles aventures. Et peut-être que tu m'inviteras pour que je vous raconte un petit peu plus de quelle aventure il s'agit. Ce sera peut-être au mois de janvier, j'en saurai un peu plus, beaucoup plus. Il faudra que j'en sache beaucoup plus de toute façon.
D'accord. Donc en vrai, pour que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent comprennent,
oui.
Méta Radio se termine là.
Oui.
DJ Jim part sous d'autres cieux. Mm-hmm. Mais du coup, Méta Radio se transforme. Moi, je vais continuer à faire de la radio tous les mardis soirs, là, à 19h, tous les 15 jours, les 14 jours exactement.
Tous les 15 jours, tous les 14 jours. Donc toujours, tu gardes ce rythme.
Ouais, je garde.
Comment on dit bi-hebdomadaire, c'est ça?
Ouais, je sais pas ce qu'on dit. Mais une
bimensuel.
Fois.
Bimensuel, pardon. Ouais.
Un mardi sur deux, les semaines paires. En gros. L'émission va continuer à travailler la question de la mort, que j'avais commencé à essayer de travailler dans une optique très politique. En faisant de la question de la mort une question politique, qui meurt aujourd'hui en France, de quoi on meurt, est-ce qu'il y a des vies est-ce que toutes les vies se valent, est-ce qu'il n'y a pas des vies sacrifiées aujourd'hui dans notre monde hyper capitaliste, hyper inégalitaire, hyper violent, hyper dur. C'est pas nouveau en fait, hein, cette réflexion. Il y a toujours des gens depuis la nuit des temps qui ont réfléchi là-dessus, quoi. Grande question fondamentale.
Est-ce que la vie d'un Palestinien vaut la vie d'un Israélien, par exemple?
Exactement. Mm-hmm. Est-ce que la vie, par exemple, d'un animateur soi-disant vedette de la télévision française qui est décédé, Patrice Lafont, on en fait tout un foin pendant des mois et des mois. Alors que je rappelle, Patrice Lafont, il est mort cet été,
okay.
Qui a été un animateur vedette d'Antenne 2 pendant des années.
Ah, j'ai bien connu.
Qui a présenté Pyramide. Vous regardez des anciennes émissions de Pyramide. Mmh. Vous allez voir le racisme inconscient de l'élite bourgeoise. Il n'arrête pas de faire des blagues racistes.
Il a été avec Dorothée, un de mes babysitters.
Voilà. Et bien Patrice Lafont meurt cet été. On va en faire des foins et des foins, comme si tout d'un coup, là, c'est la vie et l'œuvre de ce type-là valait plus que plein de gens qui viennent en France pour survivre et qui meurent en traversant la Manche ou la Méditerranée. Là, leur vie ne compte a priori beaucoup moins que la vie d'un Patrice Lafont.
Ou les travailleurs d'ArcelorMittal qui sont 300 à être morts, qui sont morts au travail, 300 en 10 ans.
Voilà, c'est tout ça en fait que je vais essayer de creuser... cette année. Alors, avec plein de choses, parce que ça brasse plein de choses. Ça brasse les inégalités sociales, les inégalités au travail, mais ça brasse aussi l'injustice des frontières qui vont séparer des pays, etc. Ça brasse qu'est-ce qu'on entend par une vie digne. Qu'est-ce qu'on entend aussi par... comment on accompagne les gens qui meurent, quoi, qui vieillissent? On est dans une société très vieillissante. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Moi, j'y suis confronté professionnellement. Mais bon, voilà, toutes ces questions, en fait, je veux vraiment politiser ce problème.
Djihad, on rappelle pour nos auditeuristes que tu es donc employé des pompes funèbres. Quand tu dis que tu parles de la mort sous l'aspect politique, je pense que tu réduis toi-même ton champ d'analyse parce que tu en parles de manière sociale, philosophique et souvent aussi poétique.
Bien sûr, il y a toutes ces dimensions, mais en fait, j'appuie vraiment sur le côté politique, au sens de reposer cette question dans la cité, pas au sens politicien, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une question qui nous traverse tous. On sera tous individuellement confrontés à la mort. On est mortels. Les êtres humains sont des animaux mortels. Donc on sera confrontés à cette expérience. Et en même temps, c'est une expérience qui nous dépasse totalement, parce que je ne pense pas qu'en fait quelqu'un puisse raconter sa mort. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Donc ce qui va... Voilà. Je ne suis pas forcément clair, mais en fait... On va écouter un extrait d'un type super intéressant. Et moi, je vais essayer d'être dans ses pas, humblement, hein, à ma juste mesure, qui est celui d'un petit gars qui se pose des questions et qui n'a pas forcément les réponses. Eh bien, il y a un type qui s'appelle Didier Fassin. C'est un philosophe sociologue qui fait un énorme travail. Et ce type-là, il a une chaire au Collège de France, actuellement. Et il fait un travail, mais incroyable. Il a sorti un dernier livre récemment, là, qui s'appelle « Une étrange défaite ». Et c'est sur... je fais une parenthèse. Hein. « Une étrange défaite », c'est sur la médiatisation, ou plutôt la non-médiatisation de ce qui se passe à Gaza. Et comment, là-bas, les vies des Palestiniens et des Palestiniennes ne sont des vies qui, pour la société française et la société occidentale, ne comptent pas. Il fait un travail politique incroyablement fort. Ce type-là, il a une chaire au Collège de France. On va écouter un extrait. C'est le premier extrait que je t'ai sélectionné. Et en fait, écoutez bien, c'est par là que je veux aller. Je ne sais pas si j'y réussirai, mais on va écouter.
Didier Fassin.
Comment traite-t-on les vies? Que fait-on avec les morts? Ou plutôt, que dit d'une société la manière dont on traite les vies? Certaines vies, vies de travailleurs, vies d'exilés, vies de prisonniers, vies rendues vulnérables, inégales. Et que révèle de ces valeurs la façon dont meurent certains de ces travailleurs, de ces exilés ou de ces prisonniers? Soit qu'on les laisse mourir, soit qu'on les expose à la mort, par rapport auxquels on détourne les yeux de leurs conditions ou dont on se mobilise pour les protéger. Que sait-on des 50 000 vies altérées par les maladies professionnelles et des 700 vies perdues par accident du travail chaque année, hormis les 2 ou 3 en moyenne qui sont celles de policiers morts en service que déplorent pendant des jours les médias et le gouvernement? Quelle identité peut-on donner aux 1426 personnes officiellement disparues en Méditerranée l'an dernier et aux plus de 40 600 hommes et femmes mortes sur le chemin de l'exil au moins en seulement 6 ans, selon l'Office international des migrations, hormis là encore celle du petit garçon syrien, Alan Kurdi, dont le corps sur une plage turque a ému le monde entier? Qui évoque même les 130 suicidés qu'enregistrent annuellement en silence les établissements pénitentiaires français? Et s'interroge-t-on même sur les raisons qui conduisent à ces gestes et sur les faits qui expliquent que la France soit le pays d'Europe où l'on se donne le plus la mort en prison?
Voilà, c'était un extrait du coup de la première leçon de Didier Fassin en 2021 sur le séminaire qui tient sur ce qu'il a appelé les vies indicibles, les morts
invisibles.
Invisibles, les vies indicibles, les morts invisibles. Il continue ce travail-là. Je vais revenir là-dessus. C'est un super travail qu'il fait. Il invite des historiens, des historiennes, des sociologues. Il remonte dans l'histoire comment ont été traitées, par exemple, les maladies professionnelles. C'est passionnant. Voilà. Je m'arrête là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai invité Alain à cette émission-là. Et on va surtout parler d'un sujet qui m'a complètement bouleversé parce que Alain m'a prêté un livre. Un livre qui s'appelle « Notre revanche sera le rire de nos enfants » et qui traite d'un conflit majeur de la deuxième moitié du XXe siècle. Tu vas essayer de deviner. Si je te dis « conflit majeur de la deuxième moitié du XXe siècle ».
Conflit.
Conflit.
Moi, je pense tout de suite au Rwanda.
D'une brutalité terrible.
Rwanda.
Avec des tortures terribles, avec des meurtres sectaires, qui a duré plus de 40 ans.
Le Chili, c'était moins de 40 ans.
Qui se passe en Europe.
Ah.
Alors ?
Le Kosovo.
Non.
Non, pas 40 ans.
Non. Qui se passe dans la partie occidentale de l'Europe.
Chez nous.
Ouais, plutôt dans d'autres parties, ouais.
Une guerre, quand tu dis un conflit.
Ouais, une guerre civile.
Les troubles, en fait.
On les a appelés les troubles.
C'est l'euphémisme utilisé comme les événements en Algérie.
Exactement.
Les troubles.
On appelait ça exactement. À quoi tu penses ?
La guerre d'Espagne et la dictature de Franco.
Deuxième moitié du XXe siècle.
Wow.
Troubles, guerre, conflit qui s'est terminé en... On peut dire il y a assez peu de temps.
Assez peu de temps.
Très disons.
Mais il est toujours latent. En
toujours
fait.
Latent.
La braise couve un petit peu.
Ah, je vois que les auditeuristes nous envoient des messages.
En partie, il y a une dimension impérialiste hein, dans ce conflit-là.
Colonialiste.
Colonialiste.
Même.
On peut voilà très très fort.
Je l'ai. I got it. Sunday, bloody
yes.
Sunday.
Exactement. Voilà le conflit
nord-irlandais.
Alain m'a prêté un livre de Sorge Chalandon, qui est un écrivain journaliste français. Ce livre, du coup, il s'intitule « Notre revanche sera le rire de nos enfants ». Et c'est un somme de tous ces reportages, de tous ces articles qu'il a écrits pour Libération entre 1977 et 2006. Et je l'ai lu et ça m'a retourné le cerveau. Je connaissais très peu de choses sur ce conflit-là, sur cette question-là. J'avais des images en tête. J'avais le film, par exemple, incroyable, le film de Steve McQueen qui a quelques... Alors, c'est pas le Steve McQueen, l'acteur américain qu'on connaît bien. C'est un autre Steve McQueen, c'est un Anglais qui a sorti un livre, il y a quelques années sur la grève, les grévistes de la faim dans les années 80 des combattants de l'IRA. On va en reparler hein, de tout ça. Et il a fait un film incroyable, Hunger, je crois que ça s'appelle. C'est incroyable ce film. C'est d'une force, mais terrible. J'avais ça en tête. J'avais des images comme ça, les grévistes de la faim. J'avais l'image d'enfants, de famille sur des photos. C'est gris, c'est la misère, etc. Mais je ne savais pas grand-chose.
L'intransigeance de Madame Thatcher.
L'intransigeance de Madame Thatcher.
À partir de 79.
Ouais.
Donc, et ça est venu au pouvoir. Mais le conflit est antérieur. En fait, on a des émeutes, par exemple, en 69, le Bogside Riot. C'est un quartier Derry, hein. Derry, la ville de l'Irlande du Nord, qu'on évite d'appeler Londonderry quand on est du côté républicain, et qu'on appelle Londonderry si on est du côté unioniste, loyaliste, protestant, donc tenant au rattachement de l'Irlande du Nord à l'Angleterre.
Voilà. Alors Alain vient de dire plein de choses, plein d'informations déjà... qui nous permettent de, bah si, je pense, de restituer tout. Quand tu dis catholique, protestant, loyaliste, unioniste, etc., en fait, on se rend compte qu'il y a plein de dimensions incroyables à ce conflit. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas de faire les experts, on n'est pas des experts, on n'est pas des historiens, etc. C'est de juste dire qu'est-ce qui nous a touchés, essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé là-bas. Les techniques ont été employées par l'armée britannique et par les services secrets britanniques. Les milices fascistes du côté des protestants loyalistes, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement ? Pourquoi ils ont fait ça, etc. On va écouter une petite chanson pour faire une petite pause et on est parti sur ce sujet-là. Et bien sûr, DJ Jim, intervient quand tu veux.
Exactement. Est-ce que vous pourrez veiller à bien planter le contexte, à être très pédagogue juste après la chanson ?
On va essayer. Du coup, j'introduis cette chanson. On va écouter une chanson de Paul McCartney. Qui était avec son groupe, comment il s'appelait ?
The Wings.
Et c'est une chanson qui s'appelle Give Back Ireland to the Irish, qui a été censurée en Irlande du Nord. Voilà.
Et ce soir, c'est la dernière de Méta Radio et on parle du conflit nord-irlandais.
Ouais. On vient d'écouter du coup une chanson de Paul McCartney, Give Back the Ireland to the Irish. Tu me disais deux, trois trucs sur cette chanson.
Non, c'est une chanson qui en fait critique l'intervention armée, l'armée anglaise dans le conflit. Et c'est cet axe-là que je crois qu'il a déplu et qui a fait que cette chanson a été censurée. Ouais. C'est une chanson qu'on ignore en fait des Wings et de Paul McCartney. Elle n'est pas très connue effectivement.
Alors du coup, on va essayer de contextualiser ce conflit-là. Mais encore une fois, je le répète, ce n'est pas ça le cœur de pourquoi moi j'amène ça à la radio. Il faut le resituer dans mon questionnement sur la mort. Par exemple, on va parler des grévistes de la faim. Qui s'en soucie de ces gens-là? Qui connaît leur nom, à part Bobby Sand? Alors qu'il n'y a pas eu Bobby Sand. C'est juste ça. Il y a des vies et des morts qui ne comptent pas. Alors que ces gens-là sont exemplaires sur la lutte. Voilà.
Est-ce qu'on peut simple. Quand même après, un petit peu resituer le contexte géographique, alors, les dates, et puis il y a une question de religion derrière.
Exactement.
Alors, il y a peut-être une question religieuse au début. C'est-à-dire que, en fait, la colonisation de l'Irlande, c'est une terre irlandaise, et la colonisation de l'Irlande par des Anglais, protestants, donc, elle s'est fait clôture au XIIIe siècle, à peu près. Après, il y a des dates clés. Il y a 1790, c'est la victoire de Guillaume d'Orange sur Jacques II, le catholique. Donc, ça, c'est en 1790, je crois, c'est la bataille de la Boyne. Et c'est très important, c'est une date fondatrice, en fait, et qui va être revendiquée, cette victoire de Guillaume d'Orange, par les loyalistes, les unionistes. Au début, ces deux termes sont un peu fondus.
1690,
ouais. Pardon, pas 1790. Et cette Guillaume d'Orange, ça va donner lieu à un mouvement, les orangistes, les groupes paramilitaires d'Ulster vont revendiquer très haut l'étendard de Guillaume d'Orange et sa victoire contre Jacques II, le catholique. Alors, plus tard, ensuite, on a la partition de l'Irlande en 1921, suite à des tractations politiques. C'est la naissance d'une Irlande du Nord, qu'il ne faut pas confondre avec Ulster. Hein, on parle d'Irlande du Nord, parce que l'Ulster, c'est un peu plus compliqué. Il y a deux counties, je crois, qui échappent à l'Irlande du Nord, et qui font partie de l'Ulster, et qui font partie de l'Irlande du Sud. Donc c'est la partition en 1921, et ensuite, il y a une majorité de protestants au Nord, ils sont majoritaires, mais d'une courte tête, hein, il y a 3-4% de population de protestants en plus, donc il y a beaucoup de catholiques. Et en 1969, c'est le début des émeutes et des conflits suite à l'arrivée de migrants économiques du Sud, hein, de catholiques, donc qui viennent s'installer à Derry. Et c'est les fameuses émeutes de Bogside, hein, qui vont se solder. Il y a une provocation orangiste, justement. Et là, il va y avoir un conflit très dur, avec de nombreux morts. Et puis, 500 maisons brûlées, incendiées par les protestants d'Irlande du Nord contre les catholiques. Là, on n'est plus dans le conflit religieux. On est dans un conflit économique, en fait. Les gens, rattachés à la couronne britannique, ils défendent leurs intérêts. Et ils ont peur que ça s'inverse et que les catholiques deviennent majoritaires dans le pays. Là, on a des frictions entre les deux camps qui sont très marquées.
Après, il y aura toujours la dimension, entre guillemets, religieuse, puisque, par exemple, les loyalistes, donc les protestants,
oui.
Vont traiter, par exemple, les catholiques de l'autre bord, de papistes.
De papistes, de vendus à Rome.
Du coup, il y a vraiment trois dimensions. La dimension religieuse que tu as rappelée, protestants, catholiques. Les protestants qui sont souvent des Anglais, des Écossais qui ont colonisé la terre d'Irlande et qui se retrouvaient en majorité plutôt au nord. Les catholiques qui étaient les Irlandais de Chous, on peut dire, quoi. Ouais, les habitants, voilà. Première clé, cette histoire de religion, qui est instrumentalisée après hein, par l'Angleterre surtout, puisque l'Angleterre est protestante. L'autre division, c'est unioniste, nationaliste. L'IRA est en partie nationaliste, on peut dire.
Républicaine.
Et la troisième, c'est loyaliste républicain. Alors, je ne sais pas si je suis clair, mais en fait, il y a des divisions...
Républicains ou...
Les républicains, l'IRA, l'Irish Republican Army, l'armée républicaine irlandaise, sont des républicains. Ils sont pour un système démocratique, république. Ils sont anti-monarchistes. Avec le temps, après, il y a des divisions, ouais, il y a des... En tout cas, il y a des, comment dire,
il y a des scissions,
il y a des écoles,
il y a différents mouvements
à l'intérieur de l'IRA, mais l'IRA est républicain et pour un régime républicain, non monarchiste, etc.
Oui, et loyalistes, unionistes sont de l'autre côté en fait.
Ouais.
C'est ceux qui sont en faveur d'un rattachement, d'une continuité. D'une alliance avec le Royaume-Uni.
On ne va pas s'étendre sur ce contexte-là, mais est-ce que tu as tes clés ? En fait, l'Irlande, le conflit qu'on a appelé les troubles et les émeutes nord-irlandais qui commence fin des années 60, 68, 69, tu l'as dit, il éclate là parce qu'il y a une telle répression et une telle discrimination de la population catholique en Irlande du Nord que ce n'est plus possible. Et là, l'IRA renaît, alors qu'elle existait déjà, hein. Elle existait depuis 1916. C'est là qu'elle s'est créée, avec les Michael Collins, etc. Mmh. Ces grands indépendantistes irlandais qui ont fait que l'Irlande du Sud est devenue indépendante. Et il y a eu la scission, comme tu l'as dit. L'IRA s'est créée à ce moment-là. Pourquoi ça ressurgit en fin des années 60 ? J'ai en partie expliqué. C'était insupportable, quoi, ce que vivait...
C'est la répression.
C'est la répression, c'est des attentats. Quand on parle des attentats, on pense souvent aux attentats républicains, comme le Guildford. Mais le premier attentat sévère, en fait, il est à mettre au bilan des unionistes.
C'est une
action terroriste dans un pub. C'est 12 morts catholiques, voilà, des clients du pub, qui vont être massacrés par une bombe, comme ça, aveugle. Et là, ça va vraiment déclencher les émeutes de Bogside et la répression du Sunday Bloody Sunday en 72. Et là, c'est le fait marquant, le jalon un petit peu incontournable, où là, l'armée britannique qui avait été accueillie comme une armée possiblement salvatrice, même pour les républicains, disaient qu'ils allaient mettre fin aux troubles. Là, malheureusement, l'armée britannique tire à balles réelles sur la foule pacifique. D'une manifestation, demonstration en anglais, et ça se solde par de nombreux morts. Et là, vraiment, ça anéantit tous les espoirs de paix. Le rôle de l'armée britannique est à mettre en question. Et là, on va avoir une série de répressions au niveau législatif, l'entainment, c'est-à-dire la mise en prison de gens sans jugement pendant des années et des années. Et ça va provoquer justement ce que l'on sait sur Long Cash. Et ça
alors, on va parler de Long Cash.
En 81 par la grève de la faim.
Parce que ce que tu viens de dire, Alain, c'est que, on va dire, ce retournement de la part des Britanniques, on va se rendre compte que c'est une force d'occupation coloniale qui vont soutenir le pouvoir protestant, la majorité, qui est la majorité. À partir de là... Dès 69, début 70, on peut dire qu'on est dans un conflit de type colonial, avec une minorité catholique, républicaine, qui est colonisée, qui est réprimée, avec des pratiques terribles. Hein, quand il y a des témoignages de ce qu'ont vécu des habitants, c'est terrible, quoi. Je ne parle pas des militants de l'IRA, hein, juste des habitants, des habitantes.
Oui, avec des checkpoints, des humiliations quotidiennes.
Exactement.
Des fouilles.
Ils vont durer une trentaine d'années, 40 ans, et on est dans un univers terrifique, quoi. Et c'est pas loin, hein, c'est l'Irlande. Long Cash. Donc, ce que tu as dit, il se met en place un régime...
Répressif,
où on va condamner les gens, on va les foutre en prison sans jugement. Sans rien, c'est parce que juste ils sont du mauvais côté, on pourrait dire.
Ce sont des prisonniers politiques.
Voilà.
Ce sont des prisonniers politiques, et d'ailleurs cette question, elle va émerger.
Voilà.
Des prisonniers politiques, parce qu'ils vont perdre leurs droits. Ça, à partir de Margaret Thatcher en 79, quand elle prend le pouvoir, justement, elle les décrète prisonniers de droit commun, prisonniers politiques.
Là, c'est une grande bataille.
Meurtrier, assassin, comme elle va traiter Bobby Sands, qui est quand même député, elle va le traiter d'assassin. Et de meurtrier, et donc il ne mérite aucune espèce de pitié ou de justice pour lui, et il mérite son destin puisqu'il a choisi une grève de la faim jusqu'au boutiste.
Parce que du coup, il y a tout un tas de gens qui sont arrêtés, dont des militants de l'IRA, etc. Alors, on parle de gens très jeunes, hein, qui ont 18, 20 ans, 22, 25, pas plus. C'est une jeunesse d'un pays qui a été massacré. Hein. Il faut faire le parallèle aussi dans ces années-là, les années 70, avec tout ce qui se passe ailleurs, en Amérique latine. La junte argentine qui détruit la jeunesse argentine. La jeunesse militante de gauche qui est massacrée dans ces années-là, là, les années 70, fin 70. Ici, ce qui se passe au Chili. On est dans ce contexte-là international. Il faut l'avoir en tête. Tu as parlé de la prison de Longkech. C'est quoi qu'est-ce qui se passe? C'est là que sont enfermés les militants de l'IRA et les habitantes lambda. Du côté peuple catholique, quoi. Il y a aussi des prisonniers du côté protestant.
Tout puisque, à fait.
Puisqu'il y a des milices fascistes, hein, du côté protestant.
Il y a des groupes paramilitaires. Il y a des groupes paramilitaires. Loyalistes, unionistes.
Il y en a qui se retrouvent en prison. Ouais. Mm-hmm. Alors, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi Longkech et c'était quoi qui s'est joué avec ces grévistes de la faim?
Alors, Longkech, la plupart des prisonniers, ce sont des républicains. Des catholiques, donc, des combattants de l'IRA, mais pas seulement, les gens qui ont été pris au hasard des rafles et puis sans jugement incarcérés. Longkech, c'est des bâtiments en H, c'est assez connu ça, c'est les blocs H de Longkech, et c'est une prison très dure, où les conditions d'enfermement sont impitoyables, et donc il va y avoir justement... un refus de la part des républicains. Les républicains, normalement, les prisonniers politiques, hein, qui étaient considérés comme tels, portaient leurs vêtements civils et ne portaient pas les vêtements, en fait, destinés aux prisonniers de droit commun. On va leur enlever ce privilège-là, donc on va leur demander de porter l'uniforme des prisonniers. Ils vont refuser et ça va être un premier mouvement qu'on va appeler le blanket protest. Ils vont se vêtir avec des couvertures et refuser l'uniforme carcéral. Ça va être le premier étage de la fusée. Ensuite, il va y avoir, voyant que ça ne marche pas, que les autorités sont inflexibles, ils vont passer au dirty protest. Et là, c'est carrément beaucoup plus radical. Ils vont uriner à l'intérieur, les prisonniers vont uriner à l'intérieur de leurs cellules. Ils vont répandre leurs excréments sur les murs des prisons avec une odeur qu'on peut imaginer. Et tout ça... pour essayer de faire fléchir les autorités. Ils vont obtenir gain de cause là-dessus. Il va y avoir un recul comme ça, mais arraché de haute lutte, parce que vraiment, la lutte est difficile. Et après, avec le durcissement, là, on est en 76 à peu près, et un peu plus tard. Et avec 79, la venue de Thatcher, ça se durcit encore. Le régime carcéral à Longkech. Et là, on va avoir en 81 la grève de la faim initiée par Bobby Sands. Ouais. Et là, la dame de fer qui va bien porter son nom, elle va être intransigeante. Et elle ne va pas du tout céder un pouce de terrain. Non. Et eux, ils vont jusqu'au bout de leur démarche. Et c'est 10 morts ou 12 morts.
10 morts.
C'est 10 morts.
Je vais dire leur nom.
10 morts parmi les grévistes de la faim. Thomas Hugh, voilà. 10 morts Bobby Sands.
Ouais. Moi, je vais dire tous leurs noms. Parce qu'il faut les avoir en tête, ces gens qu'on a oubliés. Hein. Personne n'en parle. Bobby Sands. Donc lui, c'est la figure la plus emblématique, la plus connue. Qui avait été élu député pendant sa grève de la faim. Bobby Sands, 27 ans. Il est mort à 27 ans après 66 jours de grève de la faim. Francis Hughes, 25 ans. Ce qui était un militant depuis sa plus tendre enfance de l'IRA. Il y a un portrait dans le livre de Chalandon de Francis Hughes, c'est incroyable.
Francis Hughes.
Une vie incroyable. Mort à 25 ans, 59 jours de grève de la faim. Raymond Mike Rich, mort à 24 ans, 60 jours. Après 60 jours de grève de la faim. Il faut entendre quoi, ce qu'ils ont vécu avec l'endurance d'une volonté de faire. Ils sont morts pour leurs idées. Quoi. Patsy O'Hara, 24 ans. Joe McDonnell, 30 ans. Martin Hurson, 26 ans. Kevin Lynch, 25 ans. Kieran Doherty, 25 ans. Tom McElwee, 23 ans. Michael Devine, 27 ans. C'est une jeunesse militante, hein. C'est une jeunesse qui a fait cette grève de la faim, qui est mort. Nous les oublions jamais. Nous les oublions jamais. Leur grève n'a pas marché, hein. Ça a été un échec, mais ça a été un échec. Je mets des gros guillemets, parce qu'en fait, ça a une telle portée symboliquement internationale que c'est une des clés, je pense. Il y a des choses qui ont des effets beaucoup plus lents dans le temps.
Comme la mort de Che Guevara, comme beaucoup de symboles.
Ça a marqué
comme ça,
tellement, c'est des symboles qui ont fait que la cause nord-irlandaise du côté des Républicains a fini par triompher.
C'est un peu les symboles christiques, hein, si on veut rejoindre avec la religion. C'est le sacrifice, c'est la mort pour des idées. Voilà. Et la grève de la faim, si on peut retourner là-dessus, sur les détails, Sors Chalandon, on parle très bien, justement, c'est toute l'agonie, perte d'un œil, perte des capacités cérébrales. Enfin, on a vraiment, et c'est une souffrance un peu délirante, hein, on va jusqu'au bout de la douleur, en fait, avec une grève de la faim. Je pense qu'on pense que on arrive gently to that night, hein, comme ça. Ben non, pas du tout, c'est pas du tout une agonie
de jours.
Confortable, au contraire, c'est tout le contraire.
Et les articles de Georges Chalandon là-dessus sont incroyables, parce qu'ils montrent aussi le soutien qu'ils avaient de leur famille, des parents, de tous les gens que j'ai cités, ils étaient soutenus.
Oui.
Il disait, mais mon fils va aller jusqu'au bout. Non, jamais, en fait, il arrêtera. Mm-hmm. Nous sommes fiers de lui. Et en fait, c'est toute leur famille, c'est toute la communauté républicaine catholique qui sont derrière. C'est incroyable.
À chaque mort, en fait, des 10 grévistes de la faim, c'est ponctué par des cris, des émeutes, des bruits de casseroles, des chants, c'est vraiment l'effervescence dans les quartiers catholiques de Belfast. C'est vraiment la folie, quoi.
Et il y a beaucoup de journalistes aussi. Il y a le monde entier qui est là, qui filme et qui compte les nombres de jours.
Ah oui, ça fait un bruit énorme.
La portée est considérable. D'ailleurs, moi, j'habitais Le Mans. Il y a une rue Bobby Sands. Voilà, ça a marqué les esprits. Et c'est vrai que quand tu parlais de défaite, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Par contre, le retentissement a été mondial. Et Thatcher, elle a perdu des points, quoi.
Ouais. Quand je disais défaite, c'est une défaite politique stratégique sur le moment, parce qu'on est face à un régime anglais intransigeant et d'une dureté sans nom. Mais en fait, symboliquement, et avec le temps, ils ont gagné. Et ne les oublions jamais. Moi, c'est juste ce que je voulais dire. On va faire une petite pause avec justement une chanson de Bobby Sands. Parce que Bobby Sands, ce jeune républicain irlandais, était un poète. On va écouter une chanson qui a été mise en musique et on revient.
C'est celle-ci, DJ?
C'est celle-ci, ouais.
Ok.
Attends, non.
Non.
Excuse-moi, c'est... Attends,
là, j'ai David. Là, je vois pas Bobby Sands du tout. J'ai Radio-Canada Archive 72.
C'est celle juste après.
C'est celle-ci?
Ouais, voilà.
Ok.
Back Home in Derry.
Bien en Irlande, les histoires de réfugiés. Ça parle de famine en Irlande dans le 18e siècle. Il y a beaucoup d'Irlandais qui sont partis chercher refuge en Angleterre, en New York, Australie. In 1803, we sailed out to sea, out from the sweet town of Derry. For Australia bound, if we didn't all drown, and the marks of our fetters we carry. In rusty iron chains, we sighed for our wains, our women we left home in sorrow. As the mainsails unfurled, our curses we hurled on the English and thoughts of tomorrow. We cursed them to hell as our bow fought the swell. Our ship danced like a moth on the firelight. White horses rode high as the devil passed by, taking souls to Hades by twilight. 12 weeks out to sea, we were now 43. Our comrades we buried each morning.
In our own saline, we were lost in time. Endless nights without dawning. Oh, I wish I was back home, Derry. Oh, I wish I was back home, Derry. Man to live out his whole life in slavery, where the climate is raw and the gun makes the law, neither wind nor rain cares for bravery. 20 years have gone by and I've changed in my wand. Comrades go sir behind me, and ever I came and I'm still the same. On the cold winter nights you will find me. Sailed out to sea, out from the sweet town of Derry. For Australia bound, if we didn't all drown, and the marks of our fetters we carry. In rusty iron chains, we sighed for our wains. Our women we left home in sorrow, and the mainsail unfurled, our curses we hurled on the English and thoughts of tomorrow.
Voilà, c'était du coup une chanson Back Home in Derry, donc parole de Bobby Sands. Derry, rappelle-nous ce que c'est Derry.
Alors Derry, c'est une ville en fait de l'Irlande du Nord, appelée par les protestants Londonderry pour bien marquer l'attachement à la couronne britannique, et pour les Irlandais Free Derry. Derry libre, hein, et ça c'est la version un petit peu irlandaise, et Derry c'est surtout le quartier du Bogside, quartier catholique, là où on a un petit peu ghettoisé les républicains. Donc Derry c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les communiqués justement sur le conflit nord-irlandais, c'est une ville qui compte.
Alors là je vais lire un extrait du bouquin de Georges Chalandon, parce que quand même depuis tout à l'heure, on s'appuie beaucoup sur son travail, parce que je rappelle que ce journaliste a fait un énorme travail sur le conflit nord-irlandais. Je vais lire un article qui date de 83 et qui vient appuyer sur une dimension qu'on ne connaît pas beaucoup, qui est la dimension des mouchards, des informateurs qui travaillaient pour les Britanniques et pour la répression. Et vous allez voir, c'est incroyable, dans ce conflit nord-irlandais, comme dans tous les conflits qui se passaient à l'époque, il y a une dimension contre-insurrectionnelle, soi-disant on va faire la guerre aux terroristes, etc. Et vous allez voir toutes les méthodes de terreur. La terreur, elle est utilisée par les États, et là en l'occurrence par l'Angleterre. Je lis cet article, qui date du 18 octobre 1983, c'est paru à Dans Libération à l'époque, et qui s'intitule « Gagner des vacances en Espagne grâce au service secret britannique ». Un couple militant républicain de Dublin avait gagné un magnifique prix au grand jeu concours, un séjour en Espagne. Mais c'est la spéciale branche qui avait tout organisé, c'est-à-dire les services secrets. Un véritable rêve, mois de mai 1983, Dublin, Irlande. Dans leur boîte à lettres, Tony et Margaret Hyde reçoivent un prospectus prospectus personnalisé posté en Grande-Bretagne. Sur l'enveloppe, leur nom et adresse et un timbre oblitéré frappé au visage de la reine. Bête concours. Passez les vacances de votre vie en Espagne. Vous avez été choisi parmi beaucoup d'autres sur ordinateur. Répondez à ces quelques questions et gagnez un voyage au pays du soleil. L'agence Caruso Travel se charge de tout. Officine de voyage établie à Londres, nanana. Tony et Margaret ont deux particularités. La première, c'est que comme beaucoup d'Irlandais, ils ne pourront probablement jamais se payer de vacances en Espagne. La seconde, c'est qu'ils sont membres importants d'un mouvement républicain irlandais, l'Irish Republican Socialist Party, IRSP, combattant tant au nord qu'au sud de l'Irlande pour le départ des Britanniques de l'île. La première particularité l'emporte évidemment, et le couple remplit consciencieusement le formulaire sans trop y croire. Si la lettre réponse n'avait pas été affranchie, avouera Tony Haid, nous n'aurions pas répondu. Le temps passe, normal, il faut départager les concurrents et dresser l'enviable liste des vainqueurs. Il y a 6 semaines, la boîte à lettres de Haid recèle un nouveau trésor. Ils ont gagné le 3e prix. Papier à en tête de Caruso Travel et 2 billets d'avion pour Malaga. Départ le 2 octobre, retour le 9 et circuit touristique organisé dans toute l'Espagne. Tony et Margaret s'embrassent, font leurs valises et prennent l'avion. Première surprise sans importance, ni le premier prix, ni le second ne sont à l'aéroport. À Malaga, l'agence de voyage a vu grand. Le thème est une semaine à Torremolinos et un taxi attend le couple dès la sortie de l'aéroport. Leur nom est inscrit sur un carton, aucune erreur possible. Direction l'un des meilleurs hôtels de la ville. On leur donne leurs clés. Ils sont inscrits sur les registres et s'endorment d'un sommeil paisible, sans souci du lendemain. Ils n'ont toujours vu personne. Au matin, coup de téléphone dans leur chambre. Le représentant de Caruso veut les rencontrer et leur parler de leurs vacances. Homme aimable qui indique que les gagnants du 2e prix sont britanniques et qu'à son grand étonnement, le 1er prix ne s'est pas manifesté. Tout est prévu, le couple irlandais n'a plus qu'à se laisser conduire. En premier lieu, l'organisateur offre le dîner du soir afin que le couple classé 3e et le couple classé 2nd se rencontrent. Logique. Tony et Margaret dînent en compagnie de 2 Anglais charmants et de l'accompagnateur. Les Britanniques n'ont qu'un côté désagréable, amener sans cesse la conversation sur le problème irlandais. « On a changé de sujet, explique Tony. Nous ne désirions pas mélanger nos vacances avec la politique. » Après le repas, l'homme de Caruso distribue des tickets pour une soirée artistique en indiquant à leur hôte que tout le monde partait pour Grenade le mercredi. Mardi, quartier libre. Tony et Margaret goûtent à un autre décor que celui des briques rouges et respirent une autre odeur que celle du charbon et de la tourbe. Mercredi matin, 8h30. Les deux couples et l'agent de voyage partent à Grenade en voiture. Là, le gentil organisateur laisse les gagnants seuls pour le lunch. Conversation générale, puis café. Tony et Margaret trempent leurs lèvres dans les tasses lorsque les gagnants du 2e prix parlent. « Nous sommes, disent-ils, membres des services secrets britanniques et nous vous offrons la somme de 10 000 livres, à peu près 18 000 euros, si vous nous donnez des renseignements sur votre organisation. IRSP, sa branche armée, l'INLA, et le nommé Dominic McGlinchey. » Froid dans le dos. En une seconde, le couple comprend tout. Le concours n'existait pas. Ils ont été délibérément choisis. L'agence Caruso elle-même n'est qu'un mauvais rêve. Vieux militants, ils refusent. Et les Anglais n'insistent pas. Panique. Les 2 Irlandais refusent de rentrer en voiture avec le second couple. Et l'agent de voyage, entre guillemets, hein, l'agent de voyage, complice qui vient de les rejoindre, et les 2 Irlandais exigent un taxi. L'agent de voyage accepte et leur désigne une voiture taxi qui est justement là. Margaret a peur, plan simple. S'ils veulent nous éliminer, pense-t-elle, ils ne s'y prendraient pas autrement. Acceptons de partir avec eux en disant qu'on va réfléchir à leur proposition. Les 5 personnes reprennent la route de Torremolinos. L'important est de contacter Dublin. Rendez-vous demain matin, indique le couple anglais, et les 2 Irlandais acceptent. De leur chambre, ils préviennent la capitale irlandaise. Coup monté, traquenard, aidez-nous. Vieux réseau. Tony et Margaret Haid sont mis immédiatement en contact avec des républicains en Espagne et déménagent à l'irlandaise de l'hôtel de luxe. Pendant le reste de la semaine, ils seront cachés par un homme d'affaires irlandais émigré au soleil dans une villa espagnole. Sous une bonne escorte, ils reprennent l'avion et rentrent à Dublin, encore tremblant une semaine plus tard. L'agence Caruso Travel n'a évidemment jamais existé. Et les 2 numéros fournis par le couple britannique sont ceux généralement utilisés à Londres par certains contacts des services secrets de Sa Majesté. je ne dis pas les numéros, mais il les a sur Georges Chalandon. Voilà. C'était juste pour montrer l'aspect dégueulasse qu'avaient les méthodes, les méthodes dégueulasses qui avaient été utilisées par l'armée britannique, par le gouvernement britannique à cette époque-là.
Et surtout le MI5 et le M16 aussi, les services secrets anglais qui étaient à la manœuvre dans ces entreprises d'intoxication un petit peu.
Dimension qu'on ne connaît pas. Hein. On va écouter un autre aspect. On va écouter un petit interview de Georges Chalandon. Georges Chalandon, je l'ai dit vite fait, c'est aussi un écrivain qui a écrit des romans sur ce qu'il a vécu par son expérience d'enquêteur en Irlande du Nord.
Alors, Georges Chalandon, c'est un romancier. C'est un journaliste avant tout, Libération, Le Canard Enchaîné. C'est un journaliste de terrain, de talent, et il va se servir des matériaux qu'il va récolter pendant ses enquêtes journalistiques pour constituer la trame de ses romans, avec des parties autobiographiques. Alors on peut citer plein de sujets que Georges Chalandon a abordés. Là on parle de la question irlandaise, il faut à tout prix lire Mon traître et Retour à Killybegs. D'ailleurs, ton intoxication avec les vacances à Malaga y figure, parce que mon traître s'est tiré de son expérience en Irlande. Voilà. Et Retour à Killybegs, qui sont deux romans, moi, qui m'ont mis sur la piste, qui m'ont donné envie de replonger dans ce conflit nord-irlandais et qui m'ont fait lire les écrits journalistiques de Georges Chalandon.
Alain, dit Djihad.
Oui.
On va écouter donc cet extrait de Georges Chalandon. Mais en tant que technicien de cette émission, j'ai parfois le mauvais rôle et je me dois de vous signaler qu'il ne reste plus que 10 minutes à cette super émission.
Ce roman, c'est l'histoire d'un homme bien. C'est l'histoire d'un combattant héroïque. C'est l'histoire d'un ami formidable. C'est l'histoire d'un époux... génial. C'est l'histoire d'un homme bien qui a baissé les bras. Et comment est-ce qu'on devient traître? Comment est-ce qu'on devient héros? Comment, à un moment donné, à l'heure du choix, on change d'avis, ou on change de vie, ou on brise tout ce que l'on avait? Retour à Killybegs, c'est l'histoire d'un piège. Un piège qui a été mis en place par les services britanniques pour faire tomber cet homme-là. Évidemment, c'est un roman. Donc beaucoup de choses, évidemment, sont romancées dans ce texte-là, mais tout son socle, c'est la vérité. Tout son socle, c'est l'amitié entre cet homme et moi. Tout son socle, c'est l'histoire de l'Irlande. Tout son socle, c'est le combat. Tout son socle, c'est, à un moment donné, le renoncement. Comment est-ce qu'on renonce? Donc, dans Retour à Killybegs, ben, là, ce que je demande aux gens qui vont le lire, c'est pas de partager le désarroi du petit Français trahi, mais c'est de me suivre dans la trahison. C'est de prendre leur part de trahison. Donc d'aller jusqu'au bout avec ce traître, c'est lui qui parle, c'est lui qui raconte, c'est lui qui nous raconte, et d'aller jusqu'aux portes de la mort, jusqu'au moment où des gens vont venir dans son petit cottage en Irlande, comme ça s'est passé réellement, puisque mon ami a été assassiné le 4 avril 2006, et pour l'abattre comme un chien par terre, de balles de gros gibier, le même calibre que l'on utilise pour tuer le gros gibier à la chasse.
Voilà. Voilà. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait d'une interview du coup de Georges Chalandon. En fait, j'ai tiré ce petit passage parce que voilà, c'est super essentiel ce qu'il raconte. Il ne s'agit pas de dire « Oh, le méchant, il y a les méchants, il y a les gentils, il y a les traîtres, etc. » On voit que les choses sont beaucoup plus compliquées. Et forcément, lui, Georges Chalandon, quand il enquête pendant des années et des années sur ce qui se passe en Irlande du Nord, il se fait des amis. C'est son ami qui vient de mourir, qui a été abattu comme un chien, c'est tout ce qu'il raconte, je ne vais pas répéter. Mais on voit la complexité de ce qui se passe. Il n'y a pas d'héros parfaits, il n'y a pas des super humains, etc. Ça n'existe pas. Ouais, on est pris dans des conflits universels et intimes à la fois. Et voilà, je te laisse la parole, Alain, parce que de quoi il parle? Il parle de Mon traître, un autre roman qu'il a écrit avant Retour à Killybegs. C'est juste une autre dimension de ce conflit-là que je voulais illustrer par cet extrait-là, qui est juste rappeler qu'en fait, c'est pas des numéros ou c'est pas des entités abstraites qui les combattants de l'IRA qui sont morts, les gens qui les grévistes de la faim, etc. On parle de vies qui ont été vécues dans leur complexité, dans leur souffrance, dans leur amitié, quoi. Et c'est tout. C'est tout ce que je voulais raconter. C'est pour faire le parallèle avec les migrants qui meurent en traversant la Méditerranée et la Manche, qui font juste une manchette dans un journal et qu'on va dire, tiens, il y a eu 56 morts. En fait, derrière, c'est des vies. C'est des gens qui ont traversé la vie, dont notre monde, le monde dans lequel on vit, se fiche totalement.
En parlant justement, comme tu viens de le faire, de Serge Chalandreau et son aspect romancier, et puis très inspiré aussi de la vie qu'il a vécue et de son expérience journalistique en Irlande du Nord, Mon traître, c'est le parcours de cet homme de l'IRA qui est héroïsé un petit peu, c'est un héros. Et pendant tout le roman, on parle justement de ce qui se passe en Irlande. Et si tu parlais justement des morts anonymes, dans Mon traître, il explique que se tromper de trottoir pour un enfant qui rentre de l'école, ça peut signifier la mort. Et le caillassage à mort par d'autres enfants de l'autre bande. Et en fait, se tromper de rue, se tromper de quartier, ça peut être synonyme de mort. Tout ça, il le raconte très très bien dans Mon traître. Retour à Québec, ça s'attache plus justement à la personnalité de cet ami qu'il avait, dont il ignorait qu'il avait été retourné par les MI5, les services secrets britanniques. Et Retour à Québec, c'est plus sur la personnalité de cet homme qui va se retrouver tricard dans les deux camps, c'est-à-dire ennemi de l'IRA, parce que l'Angleterre, après l'avoir utilisé comme espion, va révéler son espionnage. Et donc, il va être tricard dans les deux camps, c'est-à-dire les Anglais, en faisant la politique de la terre battue, quand sont signés les accords de paix, ils vont donner toute une liste de combattants de l'IRA qui ont, d'une manière ou d'une autre, collaboré avec les services secrets britanniques, contraints, forcés. Et donc, ils vont faire ça, ce qui est une traîtrise sur la traîtrise, en fait. Et c'est très peu reluisant comme méthode, mais en tout cas, ils s'en fichent. Et leur but, c'est de semer la zizanie au sein de l'IRA, au sein du Sinn Féin, au sein de la branche politique républicaine et puis des forces armées. Voilà.
Alors, on va finir cette émission. Donc, rappelons les bouquins de Georges Chalandon. Mon traître, sorti en 2008, Retour à Killybegs. Donc, deux romans qui reviennent sur ces enquêtes qu'il a fait en Irlande du Nord. Et je rappelle le titre de la somme de ces articles. En fait, c'est une phrase de Bobby Sands. Notre revanche sera le rire de nos enfants. Magnifique phrase. Notre revanche sera le rire de nos enfants. Voilà, on va en finir là pour aujourd'hui. C'était la dernière de Méta Radio. Mais oui. DJ Jim, tu m'as dit que tu étais OK pour revenir quand on t'invitait.
Oui, et puis pour la technique.
Pour la technique.
Et pour être toujours là. Auprès de toi, DJ Ad.
Yeah, man.
Merci, Alain.
Merci à vous.
On se quitte en musique.
Est-ce que j'envoie Sunday, Bloody Sunday?
Alors,
non.
Il y avait Sunday, Bloody Sunday, mais une autre chanson de John Lennon.
Moins connue.
Je ne l'ai pas.
Si, qui est juste avant. Voilà.
Ah, ici. Là. Ok. Eh bien,
Attends. Oui. Non, mais juste cette chanson est beaucoup moins connue que celle de U2, alors qu'elle est sortie avant. Elle est sortie pendant les événements, juste à peu près à ce moment, en 72, on rappelle. Voilà. Il y a un article de Georges Chalandon pendant sur la mort de John Lennon, qui est mort en 81. Et il faut lire, parce que... de quoi parle le monde à cette époque-là, quand meurt John Lennon, icône pacifique, icône de la gauche, etc. Pendant ce temps-là, en fait, il y a des dizaines de morts au même moment en Irlande du Nord, souvent des enfants. J'arrête. Il y aurait d'autres choses à dire. Mais un dernier truc. Ce conflit, ce qu'on a appelé les troubles nord-irlandais, il a duré à peu près une quarantaine d'années. Il n'a pas fait tant de morts. Il a fait 3 000, 4 000 morts, selon les chiffres officiels qu'il faut toujours... Mais en fait, ce n'est pas le nombre qui compte. Parce que la plupart des morts, c'est des très jeunes, voire des enfants, massacrés comme ça. Pouf ! Avec des milices fascistes ou l'armée britannique qui les tuent comme des animaux là, qui sont devant eux, paf. En gros, c'est ça qui s'est passé.
Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous sur le 101.1. John Lennon et... À la prochaine, dans 15 jours, DJ Ad sera là.
Ciao.
Ciao.